Donc, bonjour à tous. On est maintenant dans l'Épître aux Hébreux. Et puis, on va voir les premiers versets. Mais avant qu'on commence, encore une fois, on va demander le secours du Seigneur. Fait que Seigneur, tu nous as rachetés de nos péchés. Et Seigneur Dieu, en nous rachetant, en payant le prix, c'était aussi afin que la promesse du Père, qui est ta présence, Saint-Esprit de Dieu, dans notre vie, puisse être celui maintenant qui nous garde au nom de la Trinité. Seigneur, s'il vous plaît, enseigne-nous. Illumine notre entendement. Explique-nous les Écritures, mais de cœur. Seigneur Dieu, que ce ne soit pas juste intellectuellement où on est d'accord, mais qu'en même temps, on puisse, que vraiment ta parole puisse trouver la foi dans nos cœurs, afin que, Seigneur Dieu, tu puisses continuer à nous transformer, à nous sanctifier par ta parole, et à nourrir en nous un espoir qui ne peut pas être trompé. Parce que toi, Seigneur Dieu, ce que tu dis, tu le fais. Et c'est à toi qu'on doit, Seigneur Dieu, toute notre reconnaissance. C'est à toi, Seigneur Dieu, qu'on doit aussi toute notre confiance. Tu dis dans ta parole de ne pas se confier en personne d'autre qu'en toi. Alors, merci, Seigneur Dieu, de prendre soin de nous. Bénis ton peuple et s'il vous plaît, viens à notre secours, enseigne-nous ta parole. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, dans cette épître, qui, encore une fois, est un épître qui n'est pas toujours si facile à comprendre, parce que ça fait beaucoup référence à l'Ancien Testament et à l'ancien culte, qui était le culte, qu'on pourrait dire, le culte de la promesse. Donc, c'était, tout l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu qui annonce, qui promet. Celle du Nouveau Testament, c'est celle qui montre l'accomplissement. Et dans l'accomplissement, c'est celle qui nous enseigne la réalité qui s'en vient pour nous, la nouvelle création. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais juste qu'on puisse voir quelques passages. Psaume 119. Dans le psaume 119, il nous est rappelé quelque chose de très important ici. Au verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. La parole de Dieu, c'est comme une lampe. Une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier dans un monde de ténèbres. Et en même temps, il y a un autre passage qui souvent m'intriguait, c'est dans le proverbe, le psaume, c'est-à-dire 36. Dans psaume 36, il nous est rappelé ici un passage au verset 10, 36-10, « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Étant ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Donc, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et je pense qu'ici, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur va nous montrer vraiment que c'est par Jésus-Christ qu'on va avoir une meilleure compréhension de tout ce qui était promis dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, quand il marchait sur la route, finalement, avec les disciples qui marchaient vers le village d'Emmaüs, à un moment donné, il a commencé à leur expliquer tout ce qui le concernait dans Moïse, donc le premier livre de Moïse, le Pentateuque, dans toutes les Écritures, les prophètes, et il devient une clé d'interprétation vitale. Et vous vous rappelez que Jésus lui-même est décrit comme étant la lumière du monde. Donc, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par Jésus-Christ, on va avoir une meilleure explication de tout ce qui avait été promis dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, comme l'auteur du psaume 119 nous a dit, eh bien, par ta lumière, c'est-à-dire au psaume 36, par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, c'est vraiment important pour nous de demander au Seigneur, s'il vous plaît, Saint-Esprit de Dieu, illumine notre entendement, parle-nous de Jésus. Jésus est le mystère de Dieu. Et puis en même temps, c'est de réaliser que notre Créateur s'est créé en être humain et est venu par la chair, comme il avait fait alliance avec Abraham. Et c'est pour ça que le signe de cette alliance, c'était la circoncision. Parce que c'est le membre par lequel vient la semence, la postérité. Et quand la postérité est venue, qui est Jésus, c'est pour ça que Jésus rappelle à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Il vient finalement de Jésus, Jésus est un Juif. Et maintenant, finalement, il est devenu aussi, selon l'apôtre Paul, le dernier Adam. Car tous les autres Adam, si on peut les typifier d'Adam, d'Adam dans le jardin, Noé, qui est un autre Adam par rapport à une alliance que Dieu fait avec lui dans Genèse 9, ou encore Abraham, David, ainsi de suite. Si vous remarquez, selon les Écritures, la parole va toujours nous montrer que malgré leur cœur, leur confiance en Dieu, ils ont néanmoins tous manifesté l'échec. Ils étaient incapables de parfaitement accomplir ce qui était exigé. Quand Jésus est venu, il devait vivre une vie humaine parfaite, selon les règles de la parole de Dieu, pour, après ça, donner sa vie en rançon. Maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on se rappelle encore une fois qu'on ne sait pas c'est qui, mais de toute façon, l'auteur principal de tous les livres de la Bible, ça reste le Saint-Esprit. Donc, on n'aura pas besoin de se tourmenter pour ça. On se rappelle aussi, selon le contexte du livre, il devait sûrement être de l'entourage de l'apôtre Paul, parce qu'il connaît Timothée, il cite à la fin de l'Épître, et ils vont visiter l'Église à qui l'Épître, d'abord ici, cette lettre s'adresse, qui semble en passant, comme il dit dans l'Épître aux Hébreux, de recevoir cette lettre comme étant des paroles d'exhortation. En d'autres mots, ça semble être comme un sermon, un message qui a été dit de manière orale et qui a été transcrit pour envoyer à cette Église qu'ils vont visiter. Et on se rappelle que le contexte semblerait être le défi de l'époque. Comment les Juifs qui sont convertis vont vivre l'unité sans mépris avec les gens d'origine en dehors d'Israël qui se sont convertis? N'oubliez pas, le plus dur pour nous dans la vie chrétienne, ce n'est pas nos richesses. On en demande beaucoup de la richesse au Seigneur. On demande soit une prospérité en éducation, on demande une prospérité financière, on demande même souvent de vivre dans un pays. Certains pays donnent des citoyennetés qui semblent plus importantes que d'autres. C'est dramatique de voir que quand, dans certains pays, il y a un drame, vous allez voir tous les gens sur les médias sociaux dire « je suis ». Tu sais, par exemple, quand il y a eu une catastrophe en France, eh bien, tout le monde dit « je suis français », tu sais, ou encore aux États-Unis, ainsi de suite. Mais c'est drôle que quand, dans certains pays pauvres, il arrive des catastrophes encore plus grandes, personne ne s'identifie à eux. Même parmi les nations, il y a finalement une forme de plus ou moins d'importance. Ce que le Seigneur veut détruire dans l'Église, c'est ce que Paul nous rappelle dans Philippiens au chapitre 2. Tout ce qui est un gain, c'est quelque chose que j'ai qui me distingue de l'autre. Le Seigneur veut détruire à nos yeux ce qui nous donne l'impression d'être supérieur à quelqu'un, car il va produire une communauté où on est des frères et des sœurs dans le Seigneur. Et il n'y a qu'un seul Père. Et c'est pour ça que Jésus nous a dit, quand ses disciples l'ont approché, ils lui ont demandé « apprends-nous à prier ». Jésus dit « quand vous priez, dites « notre Père qui êtes aux cieux ». Notre Père. Pas juste mon Père à moi, mais notre Père. Et là, c'est important pour nous de réaliser qu'il y a un défi dans l'Église primitive, comme il va toujours y avoir un défi dans l'Église de racisme. Puis le racisme va prendre toutes sortes de formes. Et l'Épître aux Hébreux va surtout vouloir détruire celui dont les Juifs avaient beaucoup de difficultés à abandonner, ce qui était une richesse pour eux. Eux, ils sortent d'une religion qui est de Dieu. Et ils vont rencontrer des gens qui se tournent vers Jésus-Christ, qui sortent d'une fausse religion. Et l'auteur ici, comme l'apôtre Paul, puis on voit ça dans son milieu, l'apôtre Paul a travaillé toute sa vie à vraiment, parce que lui-même a rendu, avant sa conversion, une violence extrême contre les Juifs qui avaient cru en Christ, qui semblaient abandonner la richesse du judaïsme de l'époque. Même Étienne s'est fait tuer et on l'a faussement accusé comme s'il avait parlé contre le temple. Et quand l'apôtre Paul va retourner à Jérusalem, même Jacques, l'ancien dans l'église de Jérusalem, va rappeler à Paul qu'il y a eu un grand réveil. Il y a beaucoup de gens qui, dans Jérusalem puis dans la Judée, s'étaient tournés vers le Seigneur Jésus. Et Jacques rappelle à Paul en disant, en passant, ces Juifs qui se sont tournés vers Christ sont très zélés pour la loi. Et ils ont entendu dire à ton sujet que tu parles contre le temple. Paul n'était pas contre le temple. Il est en train de simplement de rappeler ce que Jésus nous a enseigné. Le véritable temple de Dieu, ce n'est pas le bâtiment qu'il y avait à Jérusalem. À partir du moment où Jésus s'est incarné, lui-même Jésus avait dit à ses disciples qu'ils n'avaient pas compris quand il l'avait dit. Parce que Jésus avait dit cette phrase, « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. » Il devait être pas loin du temple et les gars ont sûrement se demandé en disant, « Tu sais, Jésus est la réalité de l'image. » Le temple à Jérusalem, les pierres, étaient simplement l'ombre d'une réalité. La réalité, c'est Christ. De la même manière que Paul nous rappelle que le rocher au désert, quand le peuple d'Israël, finalement, avait besoin d'eau et que le rocher faisait sortir de l'eau de manière quasiment miraculeuse, Paul rappelle que ce rocher, c'était Christ encore. Une image de Christ, l'ombre de Jésus-Christ. Celui qui, dans la parole, dit « Venez à moi, vous tous qui avez soif ». Parce que des fleuves d'eau vive vont sortir de son sein. Ou encore une fois, quand il fait la multiplication du pain. Et là, les gens essaient de faire, parce que Jésus manifeste un signe pour leur montrer que lui est le véritable pain descendu du ciel. La manne dans le désert n'était pas le pain du ciel, c'était l'image qu'un jour Dieu donnerait, ce qui est essentiel à la vraie vie, le Fils unique de Dieu. Et toutes ces choses, finalement, vous savez, c'est plus facile de rester attaché à ce qu'on voit que de faire confiance à ce que le Seigneur nous dit. Et ils devaient, ces gens-là, abandonner un rituel de plus de 1500 ans avec, finalement, tu sais, c'est impressionnant quand tu arrives à Jérusalem que tu vois le temple, tu vois les sacrificateurs, encore une fois, tu sais, c'est impressionnant avec toutes les décorations, tout ce qu'on mettait autour, c'est grand et merveilleux. Jésus arrive. Jésus, le véritable temple de Dieu. Est-ce que vous réalisez que quand Jésus arrive, c'est un charpentier, c'est le fils d'un charpentier. Il vient d'un petit village de Nazareth, dans le nord de la Galilée, où la plupart des Juifs dans le sud et dans le centre d'Israël, dans la région de Jérusalem, méprisaient les Juifs qui vivaient au nord d'Israël, dans la région de Galilée, parce qu'ils s'étaient mêlés beaucoup avec les Syriens, puis c'est proche du Liban, là. Et donc, c'était des gens en dehors d'Israël. C'est impressionnant de voir comment le Seigneur dit « Je suis doux et humble de cœur ». Le glorieux Seigneur est venu dans l'humilité. Et c'est pour ça qu'une des conditions vitales pour continuer à marcher avec le Seigneur afin d'être l'objet de sa grâce, c'est de résister à la tentation de toujours se revêtir d'orgueil pour se distinguer des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler entre nous autres sans arrêt. Rendons toute la gloire à Dieu sans arrêt. Parce que Dieu dit, « Je résiste les orgueilleux, mais je vais faire grâce aux humbles. » Celui qui est humble, c'est celui qui réalise sa pauvreté. Donc, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur écrit d'une manière magistrale. C'est un message. Et dans ce message, il va leur montrer que si vous retournez à l'ancien culte, vous méprisez le Dieu vivant. Dans un des commentaires que j'ai consulté, entre autres celui de John MacArthur, MacArthur finalement rappelle que le livre serait adressé, d'après lui, à 3 types de personnes chez les Juifs. Donc, il considère que c'est sûrement aux Juifs parce que il faut vraiment avoir une très bonne connaissance de l'Ancien Testament, surtout du temple, du rituel, pour mieux comprendre. Puisque l'auteur dit, vous devriez être des maîtres de ce que je vous dis, mais vous êtes rendus lents à comprendre. Bref, il dit que la première catégorie serait des Juifs qui ont vraiment cru au Seigneur. Des Juifs qui ont mêlé la foi s'ils ont entendu. Deuxième groupe, c'est des Juifs qui ont intellectuellement accepté que Jésus serait le Messie, mais ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas mis leur foi dans le Seigneur Jésus. Et le troisième groupe serait des Juifs qui n'ont pas cru dans le Seigneur Jésus. Et MacArthur nous rappelle, dit, on peut trouver, au fond, ces 3 catégories dans notre Église aujourd'hui, facilement. On vit dans une société, surtout occidentale, où le christianisme est là depuis longtemps et elle est composée de vrais croyants qui ont vraiment cru en Jésus-Christ, qui savent se confier en lui, qui vivent de lui, où la parole trouve la foi lorsque finalement elle est proclamée. Vous avez d'autres, même dans les églises, qui sont là, qui intellectuellement seraient peut-être d'accord avec le message, mais qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ, se sont pas engagés envers le Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième catégorie, ceux en dehors de l'Église, qui ne croient pas dans le Seigneur. Donc, le livre, même s'il semble s'adresser à du monde de manière très spécifique, peut très bien s'appliquer à nous aujourd'hui, ici et maintenant, à notre propre assemblée. Il y a des vrais croyants qui savent, d'épreuve en épreuve, comment s'attendre au Seigneur. Vive par la foi, parce qu'en dehors de la foi, on ne peut pas être agréable au Seigneur. Il y en a plein dans notre assemblée, c'est vraiment un privilège. Il y a d'autres personnes qui sont élevées au milieu de nous dans ce qu'on a cru, dans ce qui a été dit, mais qui n'ont pas encore mêlé la foi à ce qu'ils ont entendu. Et ça, c'est la catégorie la plus en danger. Et malheureusement, il y a des gens qui ont quitté l'assemblée en disant clairement qu'ils ne croyaient pas du tout en Dieu et en l'Évangile, et qui vivent à leur manière, comme le monde le propose, car Dieu permet à ce qu'on puisse le rejeter. Mais n'oubliez pas, chacun va récolter ce qu'il a semé. Donc, ce livre va être pour nous, je pense, une occasion de vraiment, Seigneur Dieu, que tu puisses nous parler par ce livre, à chacun de nous, afin que ceux qui ont la foi véritablement en Christ, que votre foi soit fortifiée dans le Seigneur, qu'on puisse s'enraciner davantage dans son œuvre à lui à notre égard, prendre vraiment une reconnaissance de l'amour que Dieu nous a manifesté. Pour ceux qui ont une foi de niveau plus intellectuel, que vous puissiez avoir l'occasion de vous confier dans le Seigneur, de mêler la foi à ce que vous allez entendre, afin de vous engager envers lui par la foi. Et que le troisième groupe, que le Seigneur puisse accorder la repentance et la foi véritable en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous soit dévoilé, afin qu'une vraie relation s'établisse entre vous et Christ. Donc, ça, c'est vraiment le désir de mon cœur. Donc, avant d'aller plus loin, on va lire un psaume, un autre psaume qui est très important. Et je pense qu'il introduit bien toute l'Épître aux Hébreux, ce que l'auteur veut nous montrer. C'est le psaume 2. On est vraiment dans le contexte ici, à l'époque que l'auteur écrit d'avoir vécu le psaume 2. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? » Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer et tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, « Roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'allumer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Donc, c'était le psaume 2. Et c'est sur la base de ce psaume que l'auteur ici, s'adressant à Israël, rappelez-vous ce que les apôtres ont eux-mêmes qualifié le psaume 2 d'interprétation de ce qui est arrivé lorsque Jésus a été livré à Pilate. Les nations qui représentaient les nations d'Israël et les dans le sens en dehors d'Israël, les nations païennes, Pilate et Hérode se sont mis ensemble, au fond, pour livrer le Seigneur afin qu'il soit mis à mort. Et les apôtres eux-mêmes vont prendre le psaume 2 pour interpréter ce qui est arrivé à Jésus par rapport à Pilate et par rapport à Hérode et entre autres Caïphe et les gens en Israël de l'époque. Donc, si on vient à l'Épître aux Hébreux maintenant, les versets 1 à 4 vont nous donner l'introduction du thème que l'auteur va développer, qui va être finalement les versets 5 jusqu'au chapitre 2, ou jusqu'au chapitre, c'est-à-dire 4, verset 13. Et ça va se diviser en deux sections. D'abord, il va nous parler de la parole du salut, la parole salvifique de Dieu dans le Christ. Il va nous montrer finalement que Christ est glorieux en contraste avec les anges. Il va nous parler finalement de la parole divine d'avant, de jadis, celle qui est annoncée par les anges. La parole de Dieu est notre foi d'aujourd'hui. Et après ça, il va conclure la parole de Dieu pour le monde futur. Ça va être la première section du chapitre 1, verset 5, jusqu'au chapitre 2, verset 16. Et après ça, il va faire une conclusion puis une transition à partir du chapitre 2, verset 17 à 18. Après ça, il va commencer la deuxième section du Christ exalté. Ça ne sera pas maintenant par rapport aux anges. Il va montrer comment Christ est exalté par rapport à Moïse. La parole divine de jadis encore, Moïse et le Fils. Après ça, la parole divine aujourd'hui et les croyants, qu'est-ce qu'on croit de l'œuvre qui est accomplie? Pour après finir cette section, la parole de Dieu et le futur repos. Ce que le pasteur Pierre nous a enseigné dans son message, qui était vraiment excellent. Et finalement, il va conclure au chapitre 4, versets 11 à 13, pour faire l'idée du thème. Donc, pour introduire ce thème, il le résume du verset 1 à 4, et c'est quatre versets pour nous, mais dans le texte grec, c'est juste une phrase, c'est une très longue phrase. Je la lis. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges, il a hérité un nom plus excellent que le leur. » Donc, si on prend cette partie du texte, autrefois, donc ici, toute la parole qui avait été donnée dans notre livre ici, dans l'Ancien Testament. Autrefois, le Seigneur a parlé, mais aussi a manifesté son message de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Et c'était toujours en partie. Pour qu'on puisse connaître Dieu, il faut que Dieu parle de lui-même. Car ce qu'on connaît de Dieu par la nature est très limité. Maintenant, le Seigneur nous a parlé de lui, s'est révélé, et même pas juste par des paroles, mais aussi par des actions. Parce que la parole de Dieu, quand Dieu parle, il se dévoile, et quand Dieu agit, il se dévoile encore aussi. Il se fait connaître. Par exemple, quand Dieu a manifesté sa présence par le Sinaï, une montagne qui tremble, des tonnerres, le feu, eh bien, c'était pour manifester qu'on a affaire à un Dieu, un juge, un Dieu juste, dont la colère peut être terrible. Donc, il nous met finalement en contraste que la loi va nous révéler qu'on est devant un juge. Et en même temps, quand Moïse descend de la montagne, il doit faire, au fond, le tabernacle, la tente d'assignation, pour manifester la promesse. Car sans la promesse de rédemption, sans la promesse d'un salut que Dieu lui-même pourrait accomplir pour nous, soyons honnêtes, Dieu, c'est une terreur pour nous. Qui peut être devant lui et survivre Dieu? Même Dieu lui-même dit qu'aucun homme peut vivre devant lui. Donc, la promesse ici, comme il dit à Moïse, « Fais-le selon le modèle que tu as vu sur la montagne. » Ce n'est pas « voici l'original », c'est une image de celui que tu as vu. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la promesse de Dieu. Vous vous rappelez, Pasteur Vellman nous avait finalement fait un message et sur justement la mort et la résurrection de Christ. Vous vous rappelez l'image dernière qu'il nous a laissée, qui était vraiment géniale. Quand on est entré finalement où on avait mis le corps de Jésus, il n'était plus là. Donc, ils sont rentrés et sur cette plateforme, il y avait les deux anges. Et qu'est-ce que ça nous rappelle? Exactement l'image de, finalement, le coffre avec les deux chérubins. Et dans ce coffre, il y avait quoi? Il y avait la manne, il y avait les tables de la loi et le bâton, finalement, d'Aaron. Le bâton, finalement, qui montre que quand quelqu'un sert Dieu, c'est qu'il est appelé de Dieu. Personne ne s'appelle lui-même à l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler entre nous sans arrêt. C'est pour ça que dans l'Église, on doit discerner l'appel que Dieu donne les uns aux autres. Ce n'est pas à nous de décider ce qu'on veut faire. Ça, c'est le monde. Dans le Seigneur, il faut discerner. Parce que rappelez-vous, c'est des images extrêmement importantes pour nous. D'abord, pourquoi les 10 commandements? C'est qu'un jour, le Seigneur nous dit qu'il va écrire lui-même sa loi dans notre cœur. Donc, la régénération produit une conscience nouvelle chez le croyant. C'est pour ça que quelqu'un qui continue à vivre dans le péché comme si de rien n'était et qui se dit croyant, désolé, il y a quelque chose qui n'est pas arrivé dans ta vie. Car tu as une nouvelle conscience maintenant en Jésus-Christ. La loi n'est plus écrite sur des tables de loi, la loi n'est plus en dehors de nous, la loi est inscrite dans notre cœur. La manne, Jésus rappelle finalement que le pain de vie, c'est lui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Le vrai croyant, c'est celui qui vit par la foi. Et la foi vient. On ne la produit pas, la foi. Ce n'est pas de se faire accroire, la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, le pain de vie. Et encore une fois, ce bâton de berger, ceux qui se rappellent l'histoire dans l'Ancien Testament, c'est dans les Nombres, il y a encore Abiram, Dathan, et certains chefs du peuple qui vont commencer à provoquer Moïse et Aaron de dire, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de crever les yeux du peuple? En voulant dire, c'est toujours vous qui menez, vous vous prenez pour qui? On est tous saints. Une grave erreur qui se fait ici. C'est vrai qu'ils sont tous saints, mais tous être saints ne veut pas nécessairement dire qu'on a tous reçu du Seigneur la même portion. On n'est pas dans un mouvement comme d'égalité, où est-ce que tout le monde décide, moi je suis meilleur que toi sur la base de mes dons, de mes talents. Moïse va dire, qui est Aaron? Qui est Moïse? En d'autres mots, on était appelé. Et le Seigneur nous rappelle une chose extrêmement importante par ce passage, ce que Paul reprend dans Romains chapitre 8. Il nous rappelle une chose. Quand Dieu appelle, que ce soit au salut, ou que ce soit à un ministère, à une tâche, quand Dieu appelle, il justifie. C'est Dieu qui justifie celui qui l'appelle. Et quand il justifie, il glorifie. En d'autres mots, il fait participer à sa gloire. Il va rendre manifeste l'appel qu'il justifie dans l'œuvre qu'il prépare pour qu'on y marche. Et donc, c'est pour ça, finalement, que l'auteur ici va nous rappeler que toutes ces images doivent prendre leur sens réel. Ce n'est pas des objets qu'il faut adorer. Ce n'est pas des objets comme du fétichisme. C'est carrément des messages. C'est un enseignement que l'auteur va développer de manière magistrale. Et donc, il va prendre la première partie en disant « Dieu, pour nous sauver, a d'abord parlé. » Il a parlé et il a manifesté de plusieurs manières ce thème de notre salut, de la nouvelle création. Cette création, Adam l'a perdue dans le jardin. Mais Dieu a promis d'en recréer une nouvelle. Et que là, la prochaine création serait par lui, en lui et pour lui. Et il va développer ce thème-là. Donc, il va commencer, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois, le contraste entre la parole qui nous dit par le Fils, parce que si avant, il a parlé à plusieurs reprises, et c'était des parties, c'est comme une révélation progressive. OK? C'est des éléments qui constituent de plus en plus comme des morceaux pour de plus en plus comprendre un ensemble. Plusieurs reprises, de plusieurs manières, il a parlé à nos pères par les prophètes. Les prophètes étaient des hommes appelés, mis à part par le Seigneur, à qui le Seigneur se révéla à eux. On ne s'appelait pas prophète par soi-même. C'était encore une fois des hommes, et peut-être certaines femmes, choisis de Dieu, à qui Dieu s'adressa à eux. Et malheur à la personne qui va parler d'elle-même, à qui le Seigneur n'a pas révélé son cœur. Il y avait au travers des vrais prophètes que Dieu appelle. Quand Dieu appelle, il justifie. Quand il justifie, il glorifie. Mais il y a eu malheureusement des gens aussi qui ont voulu, par convoitise, se faire prophètes. Et c'étaient les faux prophètes. Et il va y avoir un châtiment très violent contre ces gens. Maintenant, il nous dit que dans les derniers temps, et c'est intéressant, c'est l'expression des derniers temps, on est dans la dernière période de l'histoire de l'humanité. Et parce qu'il nous dit que ça, dans les derniers temps, et pourtant ça fait 2000 ans qu'on est dans les derniers temps, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. En d'autres mots, il nous a donné la dernière compréhension, la dernière révélation de lui, de son œuvre. Il n'y a plus rien à ajouter à l'œuvre, à la parole, à ce que Jésus-Christ nous a manifesté. C'est pour ça que Jésus a dit même à ses disciples un jour, qui demandait « Montre-nous le Père et cela nous suffit », Jésus dit « Si tu m'as vu, tu as vu le Père ». Donc, il est exactement ce qu'on doit comprendre, connaître de Dieu et de son œuvre à la croix. C'est lui qui a fait la rédemption de nos péchés. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Maintenant, quand il est dit « dernier temps », il faut comprendre aussi que il est au fond, regardez, verset 3, verset 2 toujours, « Dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. » Jésus lui-même a déjà sorti cette image d'héritier dans une parabole en disant qu'un jour, il y avait un homme qui avait une vigne et qui avait engagé des vignerons. Il a envoyé ses serviteurs pour avoir la récolte, les effets. Et puis souvent, on battait les serviteurs qui venaient, ou encore, on en avait même tué. Et un jour, Jésus dit, le propriétaire de la vigne envoie son propre fils. Et ceux qui l'ont vu arriver en disant, voici l'héritier. Si on le tue, on va pouvoir posséder nous-mêmes cette vigne. Et Jésus, finalement, est en train de montrer clairement une image ici. Ceux qui avaient été mis à part pour s'occuper de la vigne de Dieu qui était Israël, qui était aussi la promesse que Dieu avait faite, que c'est par les Juifs, par la chair des Juifs que viendrait le Messie, eh bien, finalement, ces hommes ont voulu tuer l'héritier. Mais l'héritier, Dieu l'a ressuscité et il en a fait l'héritier de toutes choses. Maintenant, il est dit, par lequel cet héritier, il a aussi créé le monde. La version est plus ou moins bonne ici, parce que dans le texte, d'abord, ce n'est pas le mot « créer », c'est le mot « faire ». Et le deuxième, le monde, ce serait plutôt, on pourrait dire « les mondes », parce que c'est pluriel, c'est « tous aionas », donc tous les anges. Donc, en réalité, le monde et toutes ces époques ont été au fond, fait par le Seigneur. Et c'est pour ça que pour nous, dans chaque époque, même si à nos yeux, elle ne nous est pas toujours favorable, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés, n'oubliez pas ici, selon son dessein. Nous, trop souvent, on pense que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc tout devrait être à mon avantage, tout devrait bien aller pour moi puisque je suis enfant de Dieu. Non, n'oubliez pas, vous n'êtes pas dans votre plan. Trop souvent, les gens sont encore trop narcissiques d'eux-mêmes et la vie chrétienne n'est pas autour de moi. La vie chrétienne est autour de Christ. On vit à la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus-Christ nous a rachetés pour Dieu, son Père. Donc ici, celui qui dirige tous les anges dans le monde jusqu'à la dernière période, il n'y a plus rien à ajouter maintenant. Il n'y a plus rien d'autre à espérer dans ce monde. C'est pour ça que tous ceux qui espèrent encore un salut en dehors de ce que Christ a accompli il y a pour nous maintenant plus de 2000 ans, sont en train de dire ce que les Juifs ont dit à l'époque à Pilate. Nous, on ne reconnaît pas Jésus comme étant le roi. Pour nous, le seul roi, c'est César. Combien de gens espèrent encore une fois dans les gouvernements de ce monde? Et c'est ce qui va arriver, une catastrophe mondiale un jour. Parce que tout le monde espère sans arrêt dans ce qu'il voit. Et si on méprise l'œuvre de Jésus-Christ, que l'auteur va nous expliquer, eh bien, finalement, vous êtes en train d'espérer dans un faux évangile. Vous allez être perdu pour l'éternité. Et l'auteur va nous montrer à quel point c'est important de mettre notre confiance en Jésus-Christ. N'ayez pas peur, dans toute la lumière que le Seigneur va nous donner, d'aller voir Jésus lui-même. Venez à Dieu par Jésus-Christ et demandez-lui qu'il puisse ouvrir. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. Qu'il puisse ouvrir. C'est lui qui ouvre les oreilles des sourds, comme il est dit dans la prophétie d'Ésaïe, afin d'entendre les paroles du livre. C'est lui qui enlève la pierre, parce qu'on n'aime pas Dieu naturellement. On veut peut-être profiter de lui, mais on s'aime plus qu'on aime Dieu. Et pourtant, le premier commandement nous rappelle qu'on devrait aimer Dieu au-dessus de toute chose et lui seul le servir. Mais on se sert de lui souvent pour se servir, pour se glorifier. Allons le voir en disant, « Tu as raison, Seigneur Dieu, j'ai un cœur de pierre, mais tu peux m'enlever cette pierre et mettre un cœur de chair. » Un cœur qui t'aime, le Saint-Esprit de Dieu peut me donner cet amour pour toi, me délivrer de cette colère contre toi, contre cette haine. Et donc, l'auteur va nous rappeler encore une fois qu'on est dans la dernière période de l'histoire de l'humanité. Ce qui s'en vient, c'est le retour de Christ. La fin de cette création pour, après ça, être intégrée à tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Faites attention à des gens qui n'ont rien compris aux Écritures, qui se disent même chrétiens, et qui vont penser qu'au fond, tout le monde va être sauvé, finalement. Tu sais, c'est une manière de penser que oh, Dieu a vaincu le mal en ne permettant pas qu'aucune personne soit perdue. Bien, je suis désolé, c'est très romantique ce que vous dites, mais ce n'est pas biblique. Parce que Jean nous rappelle dans l'Apocalypse que tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie sont destinés à la seconde mort. Tout ce que nous vivons ici est l'ombre de la réalité. Même la mort. La mort physique qu'on vit aujourd'hui, là, c'est l'ombre de la véritable mort qui attend les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Rappelez-vous, dans le psaume 23, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Donc, ceux qui sont régénérés, nés de nouveau, qui ont mis leur confiance dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, en mourant pour la rédemption de nos péchés, nous rachetant de nos fautes et ressuscités pour manifester notre justification, commençant maintenant une réelle communion avec lui. Et c'est pour ça que Pierre nous exhorte énormément à développer cette communion avec lui afin d'affermir, d'explorer cette nouvelle sorte de vie afin de voir les effets de cette nouvelle vie, ce qui va nous rassurer dans cette vie, parce qu'oubliez pas, on combat l'ancienne création dans laquelle on est toujours avec une nouvelle création destinée à la nouvelle terre et de nouveaux cieux. Maintenant, l'assurance, pas juste la sécurité dépend de l'œuvre de Dieu, mais moi, je vais avoir dans ma vie ici, pas juste la sécurité, je vais avoir de cette sécurité de l'assurance face à mes adversaires, de l'assurance face à mes craintes, pour vaincre finalement le prince des ténèbres que Jésus-Christ est venu détruire. Maintenant, l'assurance vient à force de marcher avec le Seigneur, car en obéissant à sa parole, en vivant, comme il dit ici, de sa parole à lui, dans ces derniers temps, le Seigneur nous a parlé par le Fils. Et c'est pour ça que Paul appelle son œuvre le mystère de Christ. Ou encore une fois, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ est maintenant entre nous et Dieu, le seul et unique intermédiaire. Et il va nous rassurer, il va nourrir notre foi, parce que l'auteur va nous montrer que c'est vraiment le souverain sacrificateur. Et le rôle d'un souverain sacrificateur, comme il va le définir, on va le voir plus tard, c'est d'abord face aux humains, d'avoir compassion d'eux autres à cause de leur faiblesse, comment il peut être utile pour leur foi. Et deuxièmement, quand il est devant Dieu, comment il peut intercéder pour nous. Et Jésus-Christ est le véritable souverain sacrificateur des biens à venir. Et c'est pour ça que les apôtres nous rappellent, il intercède pour nous aujourd'hui. Donc, ça va être un épître qui va nous montrer encore une fois que non seulement nous sommes dans les derniers temps, en d'autres mots, toute personne qui vous annonce une autre espérance que l'œuvre accomplie par Jésus-Christ est en train d'égarer les gens. Ou toute personne qui veut retourner à une forme de judaïsme pensant que ça enrichit son christianisme est en train de se détourner de l'œuvre de Christ pour continuer à croire dans ce qu'il fait. Ça devient de la superstition. Puis malheureusement, il y en a encore beaucoup dans le peuple de Dieu. C'est trop facile de tomber dans ce panneau-là. Donc, pour finir, « Et qui étant le reflet de sa gloire? » Ici, le reflet de sa gloire est l'empreinte de sa personne. Voyez l'image que l'auteur nous donne. Dieu, au fond, quand il nous a créés, l'image qu'il nous est donnée dans la Genèse, c'est qu'il a pris de l'argile et puis il a formé l'être humain. Et après ça, il a soufflé un souffle de vie. Cette argile, cette matière s'est vivifiée, elle est devenue vivante, ça a produit une âme vivante. L'image que l'auteur nous dit ici, c'est que Dieu, à nouveau, dans le mystère le plus incroyable, quand il s'est incarné, c'est comme s'il a pris de l'argile. Puis regardez bien l'image qu'il nous donne, l'empreinte de sa personne. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé qu'il y a des gens qui faisaient des masques avant en prenant de l'argile. Et il mettait ça sur le visage de la personne. Et après ça, il décollait ça et vous aviez après ça l'empreinte. Jésus, c'est Dieu qui, je ne sais pas, prenez l'image là, c'est Dieu qui a pris de l'argile humaine et il a fait l'empreinte. C'est comme s'il nous donnait l'image. Et c'est pour ça que quand on contemple Jésus, on contemple Dieu en personne. Je sais que c'est une image qui nous est donnée parce que Dieu est infini, il est incorporel. Mais il s'est créé, il a pris de l'argile et il a fait cette empreinte pour que quand vous contemplez, vous adorez, vous parlez à Jésus, vous parlez à Dieu. Encore une fois, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toute chose par sa parole puissante. Est-ce que vous réalisez que c'est, depuis le début de la création, Dieu fait tout par sa parole? Quand il a créé au début, qu'est-ce qu'il dit? Le premier passage de la Genèse, il est dit que finalement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il soutient, comme il est dit dans les psaumes, il soutient toute chose par sa parole puissante. Alors, celui qui soutient toute chose, c'est Jésus. Et il nous a été donné. C'est notre grand frère. Pour nous qui sommes nés de nouveau, adoptés par Dieu pour faire partie de sa famille. La belle illustration, j'ai tellement aimé la belle illustration que le pasteur Gaétan Brassard nous avait donnée, vous vous rappelez? Tu sais, la petite fille là, qui était adoptée puis qui était, on a commencé avec des mauvaises réactions. Et le père avait promis, on va aller, parce que la petite fille rêvait, un de ses grands désirs, c'était d'aller un jour à Walt Disney. Si je me rappelle bien de son histoire, là. Et puis, la petite fille, elle avait commencé à faire des très mauvaises réactions. Ça n'allait pas bien. Elle se chicanait avec les autres frères et sœurs dans la maison, tout ça. Et puis, Pasteur Brasson nous rappelle que le père de famille qui avait adopté cette petite fille les a amenés à Walt Disney. Et puis, le soir, quand la petite fille est revenue, finalement, tu sais, de se promener puis de voir les personnages, eh bien, elle a compris une chose. Tu ne m'as pas amené à Walt Disney. Tu ne m'as pas amené dans ce que tu as promis à cause que j'étais gentille, mais parce que, comme tu l'as dit, tu as amené la famille. Donc, je crois maintenant que je fais partie de ta famille. Tu es vraiment mon père. Et c'est pour ça que Dieu nous bénit. Il ne nous bénit pas parce qu'on est meilleur que les autres. Il nous bénit sur la base qu'il nous a adoptés. Il nous a adoptés par Jésus-Christ seul. Il ne nous a pas adoptés parce qu'on était meilleur que les autres. Il a eu compassion de nous. Il nous a manifesté un amour qu'on n'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'unique Fils de Dieu. C'est comme si dans cette famille, le Père avait un Fils légitime, le seul, engendré de Dieu, pas créé. Et il va finalement élargir cette famille par l'adoption. Il nous a rachetés par Jésus-Christ. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, encore une fois, la foi, Sans la foi, on ne peut pas être agréable au Seigneur. Parce que la foi, c'est de faire confiance dans ce que quelqu'un me dit. Et ce que Dieu nous dit, c'est ce qu'il a fait. Et si je continue à croire dans ce que je fais, alors c'est de l'incrédulité envers l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que lui a dit et ce que lui a fait. Jésus, sur la croix, en mourant, il termine en disant, « Maintenant, tout est accompli. Tout est réglé. » Et Jésus l'avait dit un peu plus tôt, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, il soutient toute chose par sa parole puissante. C'est lui qui va décider quand c'est fini. Nous vivons dans un monde qui est en pleine rébellion contre lui. Mais même cette rébellion, elle est limitée parce que le Seigneur permet à la rébellion. Et il nous a même appris qu'à la fin, il va laisser aller cette rébellion et ça va être lui-même qui va revenir pour arrêter définitivement cette rébellion finale. Donc, c'est pour nous quelque chose qui doit nous rassurer. Donc, il soutient toute chose par sa parole puissante. A fait la purification des péchés. Tous ceux qui viennent à lui à cause de son œuvre à la croix. Pas par des rituels religieux qu'il nous apprend, puis si on les pratique assez, ça va nous purifier. Non, c'est en croyant dans l'œuvre qu'il accomplit à la croix en mourant de nos péchés. Il meurt de nos propres péchés. 2 Corinthiens 5, 21 nous rappelle que celui qui était sans péché, Dieu le fait devenir par imputation. Il le fait devenir péché pour que nous, en lui, par imputation, on devienne justice de Dieu. Il est assis maintenant à la droite de la majesté divine. Il a déjà inauguré la nouvelle création en retournant d'abord dans ce qu'il est. Il est Dieu. Il est assis à la droite. La droite veut dire, au fond, l'autorité finale de Dieu, à la droite de Dieu. Mais il est là aussi en tant que l'homme nouveau. Il a inauguré la nouvelle création. Sa résurrection nous rappelle que tout ce qu'il a espéré dans cette vie, on est dans la dernière époque. Il n'y a plus d'autre chose qui va arriver sinon son retour. Et pour qu'il inaugure la nouvelle création. Mais la nouvelle création est destinée seulement à ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. L'Apocalypse finit en disant, « Et ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie vont subir la seconde mort, la vraie mort. » Mourir physiquement, on va tous mourir physiquement ici. C'est l'ombre de la vraie mort. La vraie mort, c'est la seconde. Mais pour ceux qui sont nés deux fois, vous allez mourir juste une fois. Mais pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, vous allez mourir deux fois. Si vous êtes juste né une fois, ce qui est né de la chair est chair, alors vous allez mourir deux fois. Mais si vous êtes né de la chair et que vous avez tourné les regards vers Jésus-Christ pour lui demander de vous racheter, vous reconnaissez que vous êtes perdu sans lui et qu'à la croix, il paye pour nos péchés, si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, vous recevez la nouvelle naissance. Donc, si vous naissez deux fois, vous allez mourir juste une fois. Si vous naissez qu'une seule fois, vous allez mourir deux fois. À vous de choisir, hein? Nous, on est responsables de vous donner le message. Mais, en tout cas, selon les Écritures, n'oubliez pas, oui, je crois à la souveraineté de Dieu, oui, je crois à l'élection, mais je crois aussi ce que les Écritures nous enseignent. Ça n'a jamais enlevé la responsabilité aux humains. Je sais que pour nous autres, c'est comme un paradoxe, hein? Dieu est souverain et on pense que nous autres, on n'a plus rien. Non, il y a un jugement sur les êtres humains. Combien de fois Jésus a dit, « Combien de fois j'ai voulu te rassembler sous mes ailes? » Et vous l'avez refusé. Donc, ils sont responsables d'avoir refusé. Perdons pas. Je ne suis pas arménien dans ma théologie, pas du tout. Mais d'un autre côté, je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'on n'est pas responsable. Sinon, sur quelle base Dieu vous jugerait si vous n'êtes pas responsable? On est responsable. Nous sommes responsables. Un seul peut nous délivrer des conséquences de notre rébellion. Un seul peut nous délivrer de la conséquence dans laquelle on est né, dans la chair, inimitié contre Dieu. Un seul peut nous en délivrer. Venez à Dieu, avouez-le que vous n'êtes finalement pas intéressé à lui, que vous êtes des adorateurs de vous-même, qu'à la limite, avouez-le au Seigneur en disant, au fond, je viens à toi juste pour moi, là. Mais il paraît que tu peux me délivrer de moi. Toi seul peux enlever cette folie de l'adoration de moi-même pour que je puisse me tourner vers toi pour t'adorer. Jésus-Christ est venu briser les portes des prisons pour libérer les captifs. Seigneur Jésus, libère-moi. Oui, je suis captif de moi-même. Oui, je suis un obsédé de moi-même. Oui, j'aime plus parler de moi-même que de toi. Oui, j'aime mieux voir les autres se faire sacrifier que de donner ma vie pour les autres pour témoigner ton évangile. Oui, je suis un lâche. Mais toi, tu dis que tu peux nous donner ton assurance. Toi, t'es le salut. Toi, tu es le rocher des siècles. Toi, tu es la tour. Toi, Seigneur Dieu, tu es notre espérance totale, parfaite et finale. Mais si vous recherchez encore en vous le mieux, bien, soyez pas surpris, comme Paul dit aux Galates, que vous allez finalement faire la guerre aux autres. Parce qu'on va toujours essayer d'être meilleur contre un autre. Combien de gens parlent d'eux-mêmes en comparaison toujours avec les autres? Ce n'est pas le langage du croyant. Le croyant, finalement, est prêt à montrer, comme l'apôtre Paul, de pharisien qu'il était, qui produisait, sa justice propre produisait en lui, avant son salut, une violence incroyable, surtout envers ceux qui croyaient dans la grâce de Dieu. Lui croyait dans les mérites de lui-même. Il était sûr qu'en dehors de lui, la manière que lui sert le Seigneur, ça, c'est des apostates. Et le Seigneur l'arrête sur le chemin. Il s'en allait à Damas, arrêter d'autres croyants encore. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu t'acharnes tant contre la grâce que j'accorde aux perdus? Et Paul va complètement changer. Et il va servir le Seigneur et il n'aura jamais peur de rappeler qu'il était un homme violent. Il n'a pas peur de dire à tout le monde, « Moi, je suis le chef des pécheurs. » Il voyait l'horreur qu'il était parce qu'il ne s'adorait plus comme certains. Maintenant, son adoration s'est tournée de lui-même vers le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on doit continuellement demander au Seigneur. Et ça, ça rétablit une chose de ces fameux 10 commandements. Adorer Dieu seul. Mais on est dans une nature qui s'adore et qui aime tellement, tellement parler de ce qu'elle fait. Au point que si les gens touchent à vos œuvres, certains deviennent complètement hors contrôle. C'est pas normal, ça. Donc, le seul qui peut nous délivrer, que l'auteur va nous parler ici. D'abord, il va nous montrer que sa parole, celle qu'il nous donne par le Fils, celle que l'Évangile nous rapporte, c'est la parole des paroles. Elle est supérieure à celle que les anges nous ont annoncée. Et on va voir dans le prochain message, qu'est-ce que les anges ont annoncé? Quelle était la compréhension ici? Bien, il y a un nom au-dessus de son nom. Donc, tout ça pour nous montrer qu'il est assis maintenant dans la gloire de Dieu. Et Jean nous rappelle dans l'Apocalypse que ceux qui vont vaincre, ceux qui vont continuer à lui faire confiance, vont triompher. Triompher de quoi? De ce que le monde nous attire sans arrêt. De mépriser la gloire de Dieu pour s'adorer soi-même. Donc, devenu d'autant supérieur aux anges, c'est vrai qu'il était abaissé pendant un peu de temps, sous les anges, en devenant un humain, tellement humble, tellement normal. Il faut le Saint-Esprit pour nous dévoiler Jésus, car nous, on est des obsédés de la gloire des hommes. Je vous le dis, c'est même notre époque, comme un grand artiste est mort dernièrement, je me rappelle, je vais mettre son nom complet, le premier, son prénom, c'est Raymond. Comment? Lévesque? OK, Donald Maine, c'est Raymond Lévesque. Et j'entendais un témoignage que Raymond Lévesque disait, notre époque, elle est gouvernée, elle est inspirée, elle est dirigée par les artistes. Les artistes, il parlait que c'est les artistes qui ont fait la promotion surtout du séparatisme, tu sais, du nationalisme québécois, de toutes sortes de choses. Et en passant, ce gars-là, je suis obligé d'avouer, c'est vrai. Les artistes ont une influence aujourd'hui magistrale au point que les politiciens suivent après eux autres. Ils arrivent, comme Raymond Lemaire disait, ils arrivent toujours... Raymond, ça s'excuse, Raymond Lévesque... Ils arrivent toujours en retard. Ils sont au fond, tu sais. Maintenant, vous cherchez la gloire de qui? Si vous cherchez à être glorieux, si vous parlez de vous plus souvent du Seigneur, si vous n'osez pas parler du Seigneur aux autres, c'est qu'en réalité, vous préférez la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit aux pharisiens de son époque, vous ne pouvez pas croire en Dieu. La raison est simple. Parce que ceux qui cherchent la gloire des hommes ne cherchent pas la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ a manifesté clairement ce que c'était de chercher la gloire de son Père seul. Il a été d'une humilité dans sa vie absolument incroyable. C'était même choquant pour les Juifs de l'époque de penser que c'était lui le fils de David, que c'était lui le Messie, un gars tellement ordinaire. Mais c'est trop beau. C'est vraiment notre Dieu. Donc, on finit avec « Devenant d'autant supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » C'est le seul nom donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Que le Seigneur vienne à notre secours. Que Jésus-Christ soit glorifié au milieu de nous par nos vies. Seigneur, en terminant, viens à notre secours, s'il vous plaît, Seigneur Dieu. Parce que cette obsession qu'on a de nous-mêmes, en tout cas pour ma vie, à moi, là, tu le sais, Seigneur Dieu, je ne peux rien te cacher. La gêne que j'ai qui me paralyse souvent, elle vient de ce que je préfère ma vie que de me faire humilier à cause de toi. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande, Seigneur Dieu, de continuer vraiment à glorifier ton Fils dans ma vie, afin de me donner, Saint-Esprit de Dieu, ton courage, ta foi, afin que je puisse continuer à annoncer dans une époque qui se moque de ton Fils, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, on s'en moque d'une manière incroyable. Et c'est en train de perdre notre pays. Notre pays qui peut-être certains m'ont dit que l'Évangile avant était mal prêché. Peut-être, peu importe, mais il était prêché pareil. On parlait au moins de toi avec un certain respect. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu es devenu une farce, tu es devenu une moquerie. Et c'est en train de coûter l'éternité à des millions de gens. S'il vous plaît, Seigneur, s'il vous plaît, manifeste ta grâce, manifeste ta bonté envers un peuple. Je ne veux pas trop nous qualifier, là, Seigneur Dieu, mais tu le sais à quel point on est perdu. Et on est toujours content de se réjouir de la faute de ceux qui ont parlé en ton nom pour, au fond, te repousser sans arrêt, Dieu Tout-Puissant. S'il vous plaît, viens visiter le Québec. S'il vous plaît, Père. Oui, tu as raison. Si tu nous laisses aller à nous-mêmes, on est en train, nous-mêmes, de se pendre avec la liberté que tu nous donnes. Mais Seigneur Dieu, si tu viens, tu peux ouvrir la porte des captifs. Car on est captifs d'une pensée de haine contre toi qui vient du prince des ténèbres. Alors, Seigneur Jésus, s'il vous plaît, que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, puisse te glorifier, que ton nom soit sanctifié dans le pays. Je te le demande encore une fois, Père, s'il vous plaît. Pour ta gloire d'abord, mais après, carrément pour notre avantage. Car quand ton nom est glorifié, l'effet secondaire, c'est que ça nous sauve. Ceux qui t'auront respecté, qui auront cru en toi, vont être sauvés, Seigneur Dieu, d'une éternité qui s'en vient. Car ce monde n'est qu'une ombre de celui qui vient. Alors, s'il vous plaît, Seigneur, viens nous sauver. S'il vous plaît, Père, au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, tout le monde.